Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024. Vous écoutez
RMC.
RMC.
Non, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Ça, c'est pour vous. Ça vous donne du pain à moudre là-dedans.
Effectivement, si vous arrivez cric-crac, ben vous avez plus de chances de louper votre avion.
On ne va pas faire les has-beens.
Je pense que dans le football, il y a deux situations. C'est-à-dire quand vous avez le ballon ou quand vous l'avez.
Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Jusqu'à minuit, l'after-foot.
Gilbert Bribois.
Avec Walid Acherchour, avec Daniel Riolo, on est là jusqu'à minuit avec cette grande dame qui nous rejoint.
3 ans de PSG là, blanc qu'on a entendu, c'est 3 ans de PSG, ça a donné tout ça.
Il y avait de l'équipe de France aussi.
Ah,
parce
oui.
que quand tu es arrivé à Clairefontaine,
le cri-crac, c'est quand
Fred Hermel nous rejoint, salut Fredo.
Hola chicos.
Polo Breitner bien sûr, attention le mois Polo Breitner démarre demain. Salut Polo.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde.
Et c'est pas une braderie, c'est pas une brocante. Hein.
Johan Crochet.
La boutique de luxe. Hein.
Johan Crochet là également, salut Johan.
Salut Gilbert, bonsoir à tous.
Tiens, ça me permet de vous préciser que Polo est dans un guide magnifique qui a été mené de main de maître par notre contributeur de la revue Albrecht Sonntag.
Ah, bien sûr.
Et guide de, si vous allez en Allemagne, là, si vous êtes parmi les supporters de l'équipe de France qui vous rendez en Allemagne dans les jours qui viennent, procurez-vous ce guide en français hein, qui vous présente le foot allemand, qui vous présente les villes, les stades, les clubs, les rivalités. Et Polo a écrit dedans. Polo sur Berlin.
Oui, bah, j'étais assez honoré parce que je suis le seul Français à avoir écrit. J'étais entouré d'Allemands. Mm-hmm. Donc j'avais une petite pression et donc je remercie Albrecht de m'avoir fait confiance pour ça. Donc précisons que le guide est gratuit, hein, on peut le télécharger. Donc voilà, bah, c'était un peu le match retour après celui de l'Euro 2016 où bah, Daniel aussi, on avait écrit pour.
Ah oui, je me souviens très bien avec Albrecht en 2016, on avait fait le livre de présentation. Oui, c'est vrai.
À l'époque, j'avais fait Saint-Etienne et Lyon et ils avaient aimé ma plume apparemment, donc on a fait Berlin.
Parfait.
Donc voilà, ça s'appelle Euro 84, guide de voyage d'Air Fußball. D'Air Fußball.
D'Air Fußball.
Non, pas Euro 84, Euro de cette année.
Euro 2024, pardon, oui. Je suis obsédé par 84 ce soir. Exploration d'une passion allemande. Voilà le sous-titre, si vous voulez vous le procurer.
Il y a même Schumacher dedans.
Exact. Il ne fait pas son âge d'ailleurs. Il y a les photos de Schumacher, il a plus de 70 ans.
Est-ce que Polo peut faire quelque chose sans faire référence
Ça fait 40 ans qu'on lui pose la même question.
Il a bien vieilli, comme quoi Polo, la méchanceté peut conserver.
Oh. Et tu sais, à Canada, on lui parle encore de son erreur à l'euro, hein, puisque c'est à l'euro.
Bon les gars, excusez-moi, mais on a une petite info PSG à partager. Ça vous intéresse ça peut-être. Merci Polo. Une info de Fabrice Hawkins du soir. Priorité de Lucien Riquet pour le mercato, Joao Neves, joueur de Benfica bien sûr, qui est très convoité en Europe.
Il doit parfaitement entrer dans le catalogue.
Milieu de terrain de 19 ans, qui va valoir très cher.
Hein, il va être une des façons de l'euro parce qu'il va sûrement démarrer titulaire avec le Portugal.
On parle de 100 millions minimum.
100 millions c'est très très cher, mais bon.
Je croyais que le PSG ne devait plus mettre ces sommes-là.
Ouais.
Moi, on avait dit pas de grosses dépenses, c'est fini.
À ce prix-là, je vais sur Bruno Guimaraes, je l'ai dit déjà hier soir.
Ouais, mais ça revient.
Mais bon, c'est un super joueur, c'est un joueur.
À un moment, surtout, le portefeuille démange.
Qui surtout sans ballon fait un gros boulot avec aussi. Mais bon, 100 millions à.
Et avec le ballon, parce que moi je préfère les joueurs avec le ballon quand même.
Avec le ballon, il est très bon. Mais
c'est fou cette mode aujourd'hui de parler en premier du travail défensif
non,
et du sans ballon.
Parce que tout le monde va. Parce
et
que
moi, je préfère le avec ballon.
Mais vous connaissez l'anecdote avec Di Stéfano. C'est pas nouveau ça.
Alors l'anecdote avec Di Stéfano, on a la même avec Albert Batteux, donc je ne sais pas qui est le vrai patron de l'anecdote.
Écoute, le truc c'est que à un moment on lui parle beaucoup au Real d'un joueur, il dit ouais, d'un joueur qu'il pourrait intéresser le Real, on lui dit ah puis tu sais sans le ballon, et puis tu sais puis sans le ballon, Et à un moment, avec son accent argentin, il fait « Et avec le ballon, il est comment ?»
Ah, mais après, avec le sans le ballon, c'est pour dire qu'il ratisse énormément et qu'il va chercher le ballon chez les adversaires. Parce que ça reste quand même un numéro 6 qui est très très petit. Mmh. Et tout le monde pense qu'il est très très bon avec le ballon, un peu comme Verratti. Il a cette capacité à être très bon avec le ballon. Mais sans ballon, il fait aussi...
plus Vitinha, par exemple, voilà, au milieu.
Il fait aussi un gros travail.
Très grand, quoi.
Ouais, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est que sa taille... Parfois,
parce que forcément, il faut un espèce de Golgoth au milieu. Exactement. C'est une obligation.
Rodri, il sait jouer avec le ballon, sans ballon, il est grand, il est costaud. À un moment, dans le foot d'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la dimension athlétique, ça compte.
Bah, c'est pour ça que je te dis ça. Et qu'il me fait penser beaucoup plus à Gavi qu'à Pedri, par exemple. Gavi, qui est très petit, mais qui va chercher énormément et ratisser énormément et qui récupère beaucoup de ballons. Maintenant, 100 millions d'euros, voilà.
Et c'est quoi l'anecdote avec Albert Batteux ?
C'est exactement la même.
Ah, magnifique.
On lui parle d'un joueur, et il dit sinon, vous voulez pas me dire ce qu'il sait faire avec le ballon ?
Voilà. J'adore.
C'est pareil. Donc ça se trouve, dans chaque pays, elle est déformée avec, avec un type différent qui parle.
Mais c'est pas grave.
Le problème, c'est qu'avec le foot d'aujourd'hui, maintenant, le sans ballon, c'est très très important aussi. Hein.
Bon, l'euro, les gars. Il y a plein de choses à dire, à partager, parce que donc ça démarre demain. Alors déjà, je précise que tous les matchs seront sur RMC comme d'habitude. Il y a même une radio digitale à partir de demain, 100% euro, avec une équipe de consultants dédiée. La radio digitale, c'est très simple. Hein, vous allez sur les applis RMC et RMC Sport, et vous aurez un onglet spécial euro. Par exemple, si vous voulez écouter de l'euro le matin, le midi, ben voilà, c'est toute la journée. Et puis l'after sera tous les soirs jusqu'à 00h30 pendant l'euro, puisque les matchs terminent à 23h, donc faut quand même qu'on prenne le temps d'analyser les matchs du jour. Puis il y aura le reste de l'actu, le mercato, les droits télé, si un jour ça tombe. Donc tout ça sera traité évidemment dans l'after.
Et mon anecdote alors, avant minuit.
Ah bah vas-y, bah fais-la maintenant, comme ça on évacue le truc.
C'est
le point droit télé du jour.
Point droit télé du jour pour. Je devais en parler avant-hier parce que on parlait de la mentalité des présidents et de ce qu'ils pensent que ça vaut et de la certitude et de leur suffisance parfois lors du Rennes-Reims de fin de saison. Oui. Jean-Pierre Caillot, qui, comme chacun sait, est le porte-serviette de Vincent Labrune, très sûr de lui et évidemment. Le patron a dit que, donc voilà, donc forcément les droits télé doivent tomber. Il s'est approché du commentateur de Canal et de son consultant. Alors, Canal, on ne met pas l'argent ? Bah vous serez au chômage dans 2 mois, c'est pas grave.
Voilà. Ah oui.
Ça, c'est des présidents de club en France. Un but d'eux-mêmes, sur deux.
Donc factuellement, c'est ridicule.
C'est tellement ridicule comme phrase. Et voilà, et on en est maintenant à mi-juin, il y a toujours pas de diffuseur et après t'as les présidents qui viennent se plaindre de la façon dont Canal ils viennent pas nous parler, ceci et cela, ben voilà, ben là t'as zéro.
Bon, et pour finir notre dispositif euro, sachez que les jours d'équipe de France, l'after, tout comme Rotten sans flamme, sera à chaque fois dans une ville d'un des joueurs, une ville d'origine d'un des joueurs de l'équipe de France. Donc lundi prochain, nous serons à Mâcon, ville de Griezmann, pour le premier match des Bleus face à l'Autriche.
Et c'est pas la meilleure région, la meilleure partie de la Bourgogne, mais c'est
bon,
ok.
Lui, c'est pas mal quand même, non ?
Il y a pas de joueur de papette.
Il y a un match, il y a un food truck, on est bien.
Il ouais. y a pas joueur en français.
Non, il y a pas de joueur polynésien. Marama Vairua n'est pas.
Ah, ça aurait été pas mal, ça.
Et le 21, jour de l'été et jour du deuxième match des Bleus.
De la musique.
Nous serons à Grenoble.
C'est vrai, ça.
Premier club d'Olivier Giroud. Premier club pro d'Olivier Giroud.
Pourquoi on fait Mâcon et tout, mais peut-être matière à faire autre
chose. Marcus Thuram, il est entier.
Exactement.
Ouais, ça s'appelait plus déjà.
Le club de Marcus Thuram, c'est l'ACBB. C'est Boulogne-Billancourt. C'est moins sexy, Daniel.
Très beau club formateur à l'époque.
Ça coûte pas cher.
C'est pas loin de la maison.
En même temps, il est né à Parme.
Tu peux y aller à pied si tu veux.
On peut aller à Parme. Ça vaut le coup.
Bon voilà, et puis au fur et à mesure on vous réserve comme ça quelques surprises pendant l'euro, les deux premières étapes donc Mâcon et
avec l'euro Grenoble. Commence demain
et vous pouvez assister à l'after si vous êtes à Mâcon ou à Grenoble, vous envoyez un petit message à public@rmc.fr pour être avec nous.
Bon, l'Allemagne gagne son premier match demain, Polo.
Ah non, on va démarrer par l'Espagne. Parce que Fred a les obligations.
Il est crevé, Fred.
Qu'est-ce qui se passe? Tu démarres l'euro crevé, toi?
Bah non, je termine la saison crevé, oui.
Voilà, c'est maintenant qu'il faut accélérer, Fred.
Ouais. Dans un mois, t'es en vacances à Arras, tranquille.
Ah ouais. Non, je vais en Grèce, mais j'ai suivi tes conseils.
Oui, pour une fois. Daniel. Au moins, tu auras assez de bonnes vacances cette année.
Oui, ouais, parce que sinon, je vais me faire rogueler les prochaines, donc je vais faire pas.
C'est vrai qu'Arras, ça sonne grec. Il n'y a pas de trace, Arras.
Oui, c'est vrai.
Aymeric Laporte va rater le début de l'Euro. Gêne musculaire.
Oui. Oui, gêne musculaire. Alors, c'est pas très, très grave. Bon, après, il y a quand même pas mal d'interrogations sur Laporte, parce qu'il a quand même passé la saison en Arabie Saoudite. Alors, on raconte qu'il aimerait revenir à l'Athletic Club de Bilbao. Bon, en tout cas, rien de grave.
Ça fait polémique, ça, le fait de prendre des gars qui jouent en Arabie Saoudite. Je veux dire, comme nous, N'Golo Kanté ou?
Non. D'accord. Pas trop. Pas trop, parce que Laporte, on sait que c'était un grand professionnel et que, voilà. Puis il est pas resté 10 ans, il est resté une saison, tu vois. Donc, c'est pas trop, trop gênant. Mais il va pas débuter. Donc, ce sera Nacho qui va faire la paire de centraux avec le franco-espagnol désormais.
Nacho, il part jamais titulaire, mais il joue tout le temps, en fait. C'est ça l'histoire.
Non, mais le mec, il a joué finale de Ligue des Champions. Là, il commence l'Euro. Non, mais c'est le type qui est toujours là, présent quand il
faut. Il va aller en Arabie Saoudite. Lui, il va y aller en Arabie Saoudite.
Ouais. Oui, parce qu'il est, voilà. Au Real, il sait qu'il va plus beaucoup jouer, puis il a jamais gagné beaucoup d'argent au Real. Là, le problème, c'est que c'est un joueur du cru. Il est jamais parti du Real.
Oui, bon, il était pas au SMIC non plus,
Non, il était pas au SMIC, mais bon, là, il a encore de belles années devant lui. Il va aller prendre un gros chèque en Arabie Saoudite. Il a pas le palmarès de malade, hein. Il a 6 Ligues des Champions, Nacho, hein, quand même, hein. Donc il a le droit d'aller gagner un petit peu d'argent maintenant, quoi. Moi, ce qui me fait chier, c'est quand t'as des mecs qui partent à 21 ans, hein. Bon, à son âge, ça va. Et donc, l'Espagne, on peut pas dire qu'il y ait une folie dingue autour de l'Espagne. Je regardais les sites ce soir. AS Marca, on parle plus du play-off de montée en première division entre l'Espagnol et le Sporting de Gijón que de la sélection. Bon, mais c'est normal, hein.
On l'a toujours dit, un peu comme ça en Espagne, non?
Ils sont toujours. C'est un pays de club, l'Espagne, hein. Donc, il faut que ça démarre. Mais les matchs amicaux ont été plutôt sympas à voir. Et on l'a évoqué chez les Drôles de Dames lundi. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une équipe qui est sortie de la, on va dire, de l'impasse Luis Enrique, qui voulait faire jouer des joueurs moyens comme jouait Xavi Iniesta. Non, aujourd'hui, c'est une équipe qui joue avec les ailes, avec deux super joueurs très jeunes que sont Lamine Yamal et Nico Williams. Ça joue sur les ailes, ça centre, ça ne s'interdit rien. Ce n'est plus le football horizontal, c'est du football qui sait être vertical. Mais alors, on va pas changer des joueurs, hein. Pedri, au milieu de terrain, il aime garder le ballon, il sait quoi faire avec le ballon. Les Espagnols sont tous très bien formés, il n'y a pas de problème. Mais on aura, et puis Fabián Ruiz aussi, bien entendu. Mais
Attends, Fabien, il part comme titulaire?
Ouais. Bah ouais. Ouais.
Ah, quand même.
Ouais. Bah ouais.
Quel changement, hein.
Bah, ça veut dire le trou générationnel qui est en Espagne, quand même, hein.
Après, c'est parce que Pedri aussi revient d'un peu de blessure et que Gavi n'est pas là. Donc il
n'est pas là. Ouais, ouais, bah, Gavi, il s'est fait le croisé, il a commencé à recourir, mais voilà. Donc,
après, il va falloir voir aussi le comportement des adversaires. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas sûr que Luis Enrique voulait 80% de possession à chaque fois sur chaque match. On l'a vu sur les grosses compétitions, la Suède, la Pologne, à chaque fois qu'il joue l'Espagne, c'est bloc très très bas. Est-ce que cette année, ça va être la même chose? Mais là où tu as raison d'insister, c'est que je trouve que dans le dernier tiers du terrain, la doublette Nico Williams et Lamine Yamal, c'est quand même deux joueurs très très différents. C'est-à-dire qu'il va avoir un travail préparatoire au milieu de terrain, et là dans les 25 derniers mètres, il va avoir de l'explosivité, de la vivacité, de la percussion,
de l'insouciance.
Et ça, moi, ça me parle, et sincèrement, l'incorporation des deux là sur ce tournoi m'intéresse fortement.
Oui, franchement, lundi, on faisait un petit jeu, on pariait chacun pour un joueur de notre sélection. Moi, j'avais mis Nico Williams parce qu'il est pas très connu, il est moins connu que son frère, Iñaki, hein, qui joue avec le Ghana. Et c'est vrai que Nico Williams, qui va avoir 22 ans le mois prochain, est un joueur qui est très explosif. C'est un mot qu'on utilise beaucoup.
Il avait fait une entrée contre le Maroc à la Coupe du Monde, il était rentré un peu trop tard.
C'est un joueur qui avait été quand même repéré par Luis Enrique, hein. Luis Enrique fait de belles choses aussi. Mais j'aime beaucoup ce joueur. Donc, je n'ai absolument j'ai pas d'espoir pour cette équipe d'Espagne. J'ai envie de me laisser agréablement surprendre par une équipe qui, comme j'aime le dire, ne pète pas plus haut que son cul, avec un sélectionneur qui ne donne de leçons de football à personne.
Il y a quand même des sacrés joueurs, hein, dans cette équipe.
C'est des bons joueurs.
Il
n'y en a qu'un seul qui est
World Class.
Il y en a qu'un qui est dans le top 3 mondial à son poste, et d'ailleurs c'est numéro 1, c'est Rodri. Oui. Le reste, il n'y en a aucun qui est top 3 mondial. Cite-moi un joueur top 3 mondial dans les Espagnols.
Non. Il faut dire aussi qu'il y a
aussi beaucoup de morale. Moi, la vérité, c'est que je trouve que le top 3 mondial aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose quand tu vois justement ce que sont les top 3 mondiaux et les joueurs qu'on a vus cette année, qui ont un peu baissé de niveau un peu partout, comme De Bruyne, Mbappé, quand tu vois les saisons effectuées cette année.
Oui, c'est vrai.
C'est un peu en dessous. Et surtout quand tu connais l'histoire des championnats d'Europe des nations, où franchement tu as très souvent des équipes qui brillent par leur collectif. Pendant longtemps, on avait parlé du Danemark 92 qui était un peu le pavillon témoin de l'équipe surprise, mais on a eu la Grèce, l'Italie 2021, le Portugal 2016, c'est une super équipe, mais quand tu vois leur phase de poule, t'as peur et tu te dis que jamais ils peuvent aller au bout, et ils y vont.
Il n'y a pas des cracks partout, hein. T'as Renato Sanchez qui a 18 ans au
début,
t'as Adrien Silva. Donc,
l'Euro est quand même propice à des collectifs qui arrivent en forme à un moment, fin de saison, des joueurs fatigués. Regarde là, les Pays-Bas ont perdu deux joueurs, les Français ont la Rhino ce week-end, ils sont malades, ils ont chopé un coup de clim.
Non, ça je te suis, c'est que l'Espagne c'est toujours 6, c'est, un peu... c'est 5, 6 sur 10 quoi qu'il arrive collectivement.
Il y a une base en Espagne
maintenant sur les joueurs, hormis Grimaldo qui est en grande forme cette saison.
Il va être titulaire. Qu'est-ce qu'un Cavar à la droite et Grimaldo à gauche.
Mais dans une défense à 4, alors qu'au Bayer Leverkusen, il est beaucoup plus haut, et lui aussi, ça va être une découverte. Mais tu vois la charnière centrale, le Normand et Nacho. Bon.
C'est vrai que c'est pas le.
Et Morata en numéro 9, où tu jettes la pièce, en fait, t'es au casino d'Enghien-les-Bains. C'est rouge ou noir. Soit il peut te mettre un doublé, soit il peut te crever ton équipe. Dans les deux tiers du terrain, malheureusement, je me dis qu'il y a quand même pas mal d'équipes. Les deux surfaces où ils sont meilleurs. Après, comme t'as dit, l'Espagne. Moi, j'ai envie de voir ce que ça donne.
Le groupe est compliqué puisque c'est avec l'Italie, la Croatie.
Mon premier gros rendez-vous, c'est samedi 18h, Espagne Croatie.
À Berlin.
Mais ça veut dire aussi
pour conclure.
Mais de toute façon, enfin, je veux dire, pour pas se qualifier dans cet Euro. Comme comme meilleur troisième, tu vois ce que je veux dire, l'Espagne va passer quoi, tu vois, c'est ça serait très très bizarre que l'Espagne ne passe pas au tour suivant, donc non.
Et puis moi, l'Espagne quand même, je le rappelle, si jamais Laporte revient, c'est pas être Laporte, le Normand défense centrale.
Oui.
C'est dingue.
Ouais, c'est fou.
Laporte, je sais pas ce qu'il fait en Arabie Saoudite, donc
Le Normand qui pourrait signer l'Atlético.
Ah
ouais, oui, c'est une petite.
Et puis logiquement il devrait signer au Havre.
Bon. Et puis la sensation, c'est quand même le premier tournoi de Yamal. Générationnel démarrer une compétition internationale, moi ça m'intéresse.
Et comme titulaire.
Ouais. Frélo, on va te laisser. Faut que tu te reposes.
Tu sais, je suis un vieux garçon maintenant, moi. Tu sais, mais attends, c'est plus.
Ne le dis pas, on le sait.
Allez, bonne nuit les amis, à bientôt.
Dans un instant, Julien Laurence nous rejoint, ça tombe bien, il est en Allemagne. Julien va pouvoir donc parler ambiance et tout avec lui, avec Polo.
Il a changé d'hôtel ou il est toujours dans son 3 rats là ?
Avec Johan Crochet, l'Italie dans quelques instants. L'Euro, c'est demain et c'est déjà ce soir dans l'After.
Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilles Darbribois.
Il est 23h26, Daniel Riolo est là, Walid Acher, Chorella, les drôles de dames, Paulo Breitner, Julien Laurence, Johan Crochet. On parlait de ce groupe Espagne, Croatie, Italie, Albanie. D'ailleurs, vous connaissez l'entraîneur de l'Albanie. L'Albanie, les gars, un ancien de la Ligue 1.
Silvino.
Exactement.
Qui tapait des mains très très rapidement.
Zabaleta comme adjoint.
Pardon ?
Zabaleta comme adjoint, Pablo Zabaleta, l'ancien joueur.
Je ne savais pas ça.
De l'Argentine.
Tu t'es réfugié dans ta salle de bain ou...
Mais je cherche un endroit, ça ne résonne pas trop.
Ils l'ont mis dans un hôtel. Il est au bord de l'autoroute, un vieux campanile.
Pas du tout en plus.
Pas la fenêtre au moins. Non, on va entendre l'autoroute si tu ouvres la fenêtre.
Tu étais en plein milieu de Berlin, quoi. Vous avez les moyens.
Mais oui.
Ah, t'es à Berlin là, en plein.
Dans un super hôtel en plus. Je sais pas pourquoi ça résonne comme ça.
Bon, je sais pas.
Dis-moi le nom, je vais tout de suite checker si c'est un vrai bon hôtel. Bah,
c'est un Soho House, donc il y en a un à Paris, je t'emmènerai à Paris si tu veux. Mais faut être un monde hein, pour rentrer.
faut être un membre.
Ah oui.
L'Italie. Alors, Scamacca aujourd'hui a annoncé la couleur. Il dit on est bien, on est prêt, on aura une Italie conquérante. Ah, discours positif. Hein, évidemment, il n'a pas arrivé à l'Euro. Il est quand même tenant du titre avec l'Italie. Mais
faut pas foutu de sa gueule, Julien.
Ah ouais.
Sur le site de l'hôtel. On est bien.
Ah oui, je t'ai dit.
On est bien.
Johan, est-ce que tu partages cet optimisme ?
Alors, je ne sais pas si c'est de la croyance, de l'auto-persuasion, de l'optimisme béat, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas forcément dans cet état d'esprit-là. Loin d'ailleurs de ce que je pouvais évoquer lors du dernier Euro, enfin avant le dernier Euro gagné, même si j'en faisais pas un favori, hein, loin de là. Mais là, il y a trop d'incertitudes. Il y a des incertitudes déjà liées à l'état physique de pas mal de joueurs. Le premier étant Barella, qui a rejoint le groupe et donc qui a fait un entraînement complet pour la première fois aujourd'hui. Donc à 48 heures du match, est-ce que ça sera suffisant pour être titulaire ? Est-ce que Spalletti aura envie de le risquer sur le premier match ? Parce que s'il y a une rechute, tu sais que l'Euro il est terminé. Ça c'est le premier élément. Le deuxième c'est Fratesi qui a eu une petite alerte et qui est revenu lui aussi dans le groupe et qui a fait l'entraînement complet. Fagioli, selon les infos de Sky Italia, devrait être forfait pour ce match-là.
Ah bah ouais, si, donc, ouais, c'est la fin des haricots alors.
Donc au milieu de terrain il y avait déjà des absents et il y a en plus des joueurs qui sont pas à 100%, donc c'est compliqué. Il y a aussi une vraie incertitude. Je rigolais tout à l'heure en regardant un peu ce que la presse italienne évoquait comme composition probable. Il n'y en a pas un qui est d'accord avec un autre média.
Tout le monde annonce illisible, tout et n'importe quoi. Illisible à la compo de cette équipe en fait.
Exactement. Déjà à partir du système.
Je sais pas.
Parce qu'on ne sait pas s'ils vont jouer avec une défense à 3 ou une défense à 4. Par exemple, la Gazzetta mise depuis le début sur une défense à 3. Sky ce soir mise sur une défense à 4. Et donc déjà ça change pas mal de choses, même sur les joueurs. Il y en a un qui met Cristante titulaire au milieu de terrain, l'autre qui met que Pellegrini sera titulaire, il y en a un qui met que Cambiaso sera titulaire, l'autre que ce sera Di Lorenzo. Bref, on est un peu en train de naviguer dans l'inconnu total du côté de la sélection, et ce manque de certitude à l'approche d'un Euro, ce qui est totalement différent de ce que tu avais réussi à construire avec Mancini avant l'Euro 2021. Enfin, 2020 joué en 2021, et ça me fait pas sauter au plafond avant le début de l'Euro, en plus de quelques blessés qui sont arrivés en cours de route. Acerbi, par exemple, en défense, qui est pas, c'est pas Van Dijk, hein, mais par contre, dans le 1 contre 1, dans la lecture des situations, dans la compréhension tactique, il est là, il est important. Donc la blessure de Scalvini aussi qui arrange rien non plus. Donc
et vu les forces de ce groupe là, t'as le premier match, ouais, où il faut évidemment gagner. Parce que c'est l'Albanie, ouais, et t'es obligé de gagner le premier match parce que sinon c'est cuit.
C'est ce qui peut déterminer comment, ouais, va se passer l'Euro clairement. Mmh. Et autant lors de l'Euro précédent, tu avais de mémoire la Turquie.
T'avais démarré très fort. T'avais démarré par un 3-0,
ouais,
tout de suite contre les Turcs.
Et après, l'autre, c'était la Suisse, je crois.
Si oui, tu avais Suisse aussi, oui.
Où c'était, bon, alors, c'était pas forcément ultra simple, hein, mais c'était quand même sur le papier moins difficile que ce qu'ils attendent là.
Le Pays de Galles.
Oui, le Pays de Galles, c'était le dernier, ils avaient gagné 1-0.
Dès la phase de poule et dès le premier match, ils avaient tout de suite marqué les esprits. Hein.
Quand le milieu de terrain magnifique d'Italie était rentré, là, avait commencé son tournoi, je crois. Moi, je te rappelle, Johan.
Un certain MV, c'est
ouais,
ça ?
Celui qui devait être remplaçant au profit de Locatelli à l'époque.
Celui qui devait empêcher l'Italie de gagner un trophée.
Exactement, c'est celui-là. Ouais, c'est un bon qui suis-je. Hein. C'est rapide.
Celui qui, en fait, n'était qu'un joueur accessoire avec au moins 9 joueurs sur la feuille meilleurs que lui.
11.
Non, 9.
11. Ah, 9, ça va, t'en laisse 2 quand même. C'est qui celui que tu mets de.
Donnarumma, il en reste plus qu'un. Il y en a 9 devant lui, il en reste plus qu'un.
Ah, 9 joueurs de champ. Ah, 9, non, oui. Parce que Donnarumma, il est au-dessus vu que c'est le meilleur joueur de l'Euro.
Ouais.
Ouais, donc. Ouais.
Chiesa aussi.
Oui.
Jorginho aussi.
Oui, voilà.
Non?
Oui.
C'est surtout de savoir qui était le 11e. Alors,
qui était le 11e?
Immobilier.
Ah, d'accord. Ah, ouais, ça va. Ça va fort bien quand même, Yann.
Est-ce que ce que je te dis là est faux? Par rapport aux joueurs révélés pendant cette
en deuxième partie. En deuxième partie. Arrière-gauche, il fait une deuxième très
si on est 9 meilleurs que lui, Daniel, je suis pas d'accord, mais ça, on
ouais, c'est pas grave, discuter. C'est pas grave. Bah,
tu veux
qu'on est-ce en que c'est pas, quoi, hyper, c'est pas hyper important
donc ils vont tous être très bons.
L'important c'est combien tu m'en accordes.
Vive Fagioli.
Tu m'accordes les deux centraux, le gardien, tu m'accordes l'arrière gauche, tu m'accordes Jorginho et tu m'accordes Chiesa, ça fait déjà 7.
L'arrière gauche, on est d'accord. Spinazzola, il se blesse au bout de 3 matchs. Spinazzola.
Non, il se blesse en quart contre la Belgique.
Oui, en quart.
Ça va. Il a marqué les esprits ou pas?
Ah, il était très bon première partie de compétition.
Tu m'en accordes 7.
Non, mais c'est
bien 7 déjà.
Verratti, il rentre.
C'est bien ou pas déjà? Non, mais c'est bien déjà. Bon, ben voilà, si tu m'en accordes 7, je prends.
Bravo, Walid.
On deal.
C'était calme ce soir.
On va dealer. On va dealer à 7, c'est bien. 7,
c'est bien quand même. Ah, dans les 7 champions d'Europe.
Donc, c'est un joueur accessoire.
Ah ouais,
c'est un joueur accessoire.
D'accord.
C'est ce que je dis.
Très bien.
Bon, il y a un accessoire. Où t'as fait le tour, là, globalement?
Non, j'ai fait le tour. Visiblement, Scamacca part pour être titulaire. On avait un peu le doute avec Retegui. Parce que Retegui, à chaque fois qu'il joue avec la sélection.
Retegui, il a le profil remplaçant, je rentre à la fin et je profite un peu.
Ouais, mais à chaque fois qu'il a été titulaire, il a marqué aussi. Hein. Mmh. Donc, il est à 4 buts en 8 matchs. On ne peut pas dire la même chose de Scamacca, qui doit être à 1 en 16. Donc, on n'est quand même pas sur le même ratio non plus. Mais par contre, il est en grande forme. Voilà, il est sur une fin de saison avec l'Atalanta de très haut niveau. Mais ce qui est certain, c'est que toutes les occasions vendangées là, lors des deux matchs de préparation, ça ne reste que deux matchs de préparation, mais il faudra pas faire la même dès samedi contre l'Albanie, hein, parce que là, tu seras
l'Albanie,
pas
c'est
sur...
L'Albanie, c'est pas des pipes, hein.
Ah ouais, non, bah tu sais, il y a la moitié de l'équipe qui joue en Italie, hein, donc on les connaît bien. Hein.
C'est un derby, Italie-Albanie.
Non. Pas loin. Bon, il y a 10 joueurs sur 26 qui jouent en Serie A.
Après, si tu bats pas l'Albanie, t'as rien à faire dans cette compétition, hein, à un moment
aussi.
Donné.
Hein, ouais.
C'est-à-dire que si dans une poule où il y a Croatie, Espagne.
Ouais, enfin, attention avec ces trucs-là, Walid. Hein,
oui.
L'Argentine a perdu contre l'Arabie Saoudite
dans
le premier match de la Coupe du Monde.
C'est vrai. Non, mais je dis juste que.
En soi, je suis d'accord.
Tu seras à ta place, quoi.
Dans un instant, on continue la discussion. Allemagne, Angleterre et actu du jour. À tout de suite dans l'after.
La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique!
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique! Voir conditions et règlements du jeu sur le kioskapizza.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Oui, la Cherchour, Daniel Riolo, les drôles de dames. On parle de l'Euro. On dira également un mot des coachs, hein, parce que Fonseca confirmé à Milan aujourd'hui. Terzic qui s'en va. Il faut que Polo nous en dise un mot aussi. D'ici minuit, on le fera. Mais restons pour l'instant sur l'Euro. Julien est en Allemagne, ça tombe bien. Polo connaît tout ça par cœur. Moi, j'étais à la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, du début à la fin. C'était les débuts de l'after. On était jeunes, on était frais. On faisait des matchs, des afters, des reportages, des conférences de presse. On bossait 20h sur 24. C'était
quelle belle Coupe du Monde.
Quelle belle Coupe du Monde. Et oui, ben justement, quelle belle Coupe du Monde aussi au niveau de l'organisation. Franchement, c'était nickel sur tous les plans. Est-ce que là, Polo, on va avoir la même qualité d'organisation, la Deutsche Qualität bien connue?
Deutsche Qualität, c'est l'objectif, en tout cas, longtemps affiché par Philippe Lahm. Ils savent très bien ce qu'a donné la Coupe du Monde 2006, le fameux Sommermärchen, le conte d'été, qui d'ailleurs se finit très mal parce qu'ils sont tous en procès. Mais
oui, bah, ils n'avaient qu'à pas l'acheter en même temps, la Coupe du Monde.
Oui, non, mais c'est ça qui est assez intéressant, parce que on sort toujours le mythe du conte d'été, et tu vois, il y a beaucoup de journalistes disent que demain, s'ils battent l'Écosse, et ben hop, ça pourrait relancer un compte d'été numéro 2. Donc au niveau de l'organisation, moi je me fais pas de soucis à ce niveau-là. Faut rappeler pourquoi la Coupe du Monde 2006, c'est que c'est une l'Allemagne a, évidemment post 45 a eu organisé assez rarement des grands événements. Évidemment, il y avait Munich 72 qui était assez dramatique, on s'en rappelle. Les Jeux Olympiques, il y a eu cette fameuse Coupe du Monde qui était une façon de montrer ce qu'était la nouvelle Allemagne au monde entier, etc. Demain, elle devrait être l'ouverture très très politisée aussi, parce que Philippe Lahm d'ailleurs l'annonce depuis plusieurs fois, en voulant montrer ce qu'est l'Allemagne d'aujourd'hui, humaniste, tolérante, tout ce que tu veux, etc. Donc j'attends avec impatience
progressiste
pour voir
pour voir tout ce qu'il propose. Et donc ça, c'est très important sur le discours qu'on veut faire, sur les valeurs, etc.
Aujourd'hui, il n'y a plus de questions, parce que 2006, il y avait encore des questions sur l'intégration de l'Est, il fallait bien montrer l'ex-Allemagne de l'Est et tout.
Le vote de ce week-end a montré qu'il y a encore au minimum deux Allemagnes, quand même. Mais ça, c'est pas nouveau, mais faudrait-il encore que les sociologues travaillent correctement sur ces questions-là. Mais ça fait... c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, Nagelsmann a fait une déclaration, plus qu'une équipe unie, il aimerait que le pays soit uni. Je pense que ça veut tout dire de ce qui se passe en ce moment. Et il y a beaucoup de questions, évidemment. D'ailleurs, je te donne un exemple. À 19h, je mets les infos sur les chaînes allemandes pour voir un petit peu comment ça se passe là-bas. Et rien, pas un mot sur l'euro de demain, qui commence demain. Il a fallu que je regarde les émissions de 20h et de 21h pour avoir des mini-reportages sur ce qui se passe là-bas, et notamment à Munich, avec les Écossais, évidemment, qui font marcher le commerce local. La bière coule à flot.
La bière de soif, comme dit Apollo.
Ouais, la bière, c'est la bière de soif, les Allemands. Ouais. Et ce qui est. Mais c'est vrai, en plus. C'est à chaque fois. Non, mais c'est vrai. Et donc, ce qui était intéressant, c'est de voir comment ils vont organiser ça. Sur l'organisation, j'ai pas de soucis à ce niveau-là. De toute façon, les Allemands sont connus pour ça. Mais j'aimerais voir ce que ça va donner sportivement parlant, évidemment.
Toi, Julien, qui est sur place à Berlin, là, tu sens une effervescence, un truc, ou pour l'instant, pas trop?
Pas du tout. Non, pas du tout. C'est très calme ici à Berlin, sincèrement. Hein. Je pense que la fête, elle est à Munich, avec les 200 000 Écossais qui sont là, avec les Allemands qui se préparent aussi. J'ai vu pas mal de Croates, un peu d'Espagnols. Mais c'est vrai que c'est très calme ici. Ils sont en train de finir la fan zone qui est juste derrière à Brandebourg, là-bas. La porte de Brandebourg. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est assez silencieux, hein. C'est pour l'instant en tout cas. Après, je suis sûr que ça va monter. On verra l'Espagne-Croatie de samedi. Mais pour l'instant, je pense que la fête est plutôt à Munich et que dans le reste du pays, pour l'instant, c'est plutôt calme.
Alors, le match de demain, vous êtes les deux spécialistes des pays, parce que toi, tu as tes dépendances, hein, Julien. Tu le vois déséquilibré, l'Allemagne-Écosse, ou pas tant que ça, toi, Julien?
Si, quand même, c'est une équipe écossaise qui a été très bonne dans les éliminatoires, puisqu'elle a battu l'Espagne notamment à domicile avec une très belle performance. C'est une équipe qui joue sur ses qualités, on va dire, un petit peu habituelles. C'est un peu un cliché de dire ça. Ils vont défendre bas, c'est sûr. Ils ont une défense à 5 aussi. Même si défensivement, c'est un peu compliqué ces derniers matchs. Ils ont encaissé 21 buts sur leurs 9 dernières rencontres. C'est une équipe, voilà, qui sera dure à affronter, c'est sûr. Avec un milieu de terrain, par exemple, qui manque de créativité, parce que quand t'as quasiment, on va dire, 4 numéro 8 dans les 4, donc ce sera McGregor du Celtic, ce sera McTominay de Manchester United, il devrait y avoir sûrement Ryan Christie de Bournemouth, et le quatrième, c'est McGinn d'Aston Villa, donc c'est des bons joueurs.
McTominay qui va jouer très haut, non?
C'est des joueurs qui...
Il va jouer très haut, McTominay?
On sait pas trop, en fait. Je pense que c'est Manier qui jouera haut.
D'accord.
Plus que McGinn encore. Il y a un Che Adams, par exemple, qui devrait être en pointe. T'as pas d'ailier. Ça manque beaucoup de vitesse. Ça manque de créativité aussi. C'est des bons joueurs. Et encore, c'est des joueurs qui vont être là, qui vont faire les efforts, qui vont se battre. Ça va être compliqué. Ils vont pas laisser d'espace. Tout ce qu'on veut. Mais au final, ça manque quand même un petit peu de talent. Donc oui, je pense que l'Allemagne est largement favorite. Mais c'est un premier match. On a vu les Écossais très positifs aujourd'hui. Vous se montrez très positif, en tout cas. Robertson a dit, on peut faire quelque chose d'historique. Ça peut être génial. La pression, elle est sur eux et pas sur nous. Ce qui est vrai. Ils vont avoir aussi beaucoup, beaucoup de soutien avec leurs supporters. Mais il y a quand même encore un gouffre entre cette équipe d'Allemagne, même si on n'est pas trop sûr de quoi s'attendre avec l'Allemagne, et l'équipe d'Écosse, hein.
Polo, vu d'Allemagne,
Je pense pas que ce soit le match d'ouverture le plus simple que tu puisses jouer. Hein, quand tu connais les valeurs écossaises, au minimum, ils se défoncent sur tous les ballons et tout. Quand tu dois jouer avec la pression, tout le monde t'attend, faut gagner le premier match.
Ils avaient fait 0-0 dernier euro contre l'Angleterre, non, à la maison?
Ouais, 0-0 à Wembley, ouais.
Ouais, bien dégueulasse, ouais. Hein.
Ouais, tout à fait.
Alors pour l'Écosse, en fait, c'est intéressant parce que lorsque tu vois les statistiques, évidemment, les Allemands sont largement supérieurs, mais jamais les matchs n'ont été faciles. Il n'y a jamais eu dans l'histoire entre l'Écosse et la RFA ou l'Allemagne réunifiée de raclée mis à l'Écosse. Et ça a toujours été compliqué. À l'Euro 92, c'est 2-0. Les matchs, il y a eu beaucoup de matchs de qualification pour les Coupes du Monde. À chaque fois, c'est 2-1, etc. Donc en fait, demain, j'ai presque envie de dire, comme le groupe de l'Allemagne est théoriquement, en tout cas, plus facile que celui de la France,
Une petite victoire suffirait largement, je pense, à Nagelsmann et à l'Allemagne pour commencer le tournoi. Et c'est leur grande chance, en fait, c'est que leur groupe est théoriquement plus faible que les autres, avec la Hongrie et la Suisse. Donc on a le temps de se faire, on se pose pas de la question de savoir si l'Allemagne sera en huitième de finale. Le 11 de départ, on le connaît.
Tu peux nous le dire, parce que justement, j'allais dire, je suis très excité de voir comment ils vont démarrer.
C'est la même équipe qui face à la France à Lyon.
Bah ouais, ce sera Neuer, évidemment. Défense centrale, ce sera Rudiger et Jonathan Tah. Ce sera Kimmich à gauche. Ce sera Mittelstedt à droite. Ce sera les deux récupérateurs, Toni Kroos et
Angers. Non, l'inverse, non. Kimmich à droite et Mittelstedt à gauche.
Oui.
Ouais, c'est ça.
Mittelstedt à gauche et Kimmich à droite,
ouais. Ouais, c'est ce qu'elle a dit.
T'as dit l'inverse. C'est Andrich. Ah, pardon. Kroos et Andrich, et puis les trois milieux que sont Gundogan en meneur de jeu, et Wirtz et Moussiala sur les ailes, et puis on aura Havertz en faux neuf. Ça, c'est ce qu'on attend demain.
Et Füllkrug en sortie de banc?
Füllkrug est sorti de banc, il y a Undav, il y a Furich, il y a différentes possibilités. Le problème, c'est que l'Allemagne, même depuis sa victoire contre la France, est incapable de réussir deux beaux matchs à la suite. Elle peut faire une belle prestation contre la France et très moyenne contre les Pays-Bas. Elle fait un 0-0 contre l'Ukraine qui a émis le bus, mais dans le jeu ça se passait bien. Puis elle fait une bouillie en première mi-temps contre la Grèce, où elle arrive quand même à remporter la mi-temps à la rencontre, et ce qui a été salué par la presse, comme quoi il y avait une volonté de gagner quand même. Mais si tu veux, la qualité elle est là. Il y a beaucoup de questions, c'est-à-dire c'est le duo évidemment Moussiala-Wirtz ensemble, qui sont aussi très jeunes, ne l'oublions pas.
Wirtz il s'est un peu retapé là physiquement, parce que sa finale contre l'Atalanta, je l'ai senti éreinté avec sa petite blessure là. Il s'est régénéré un peu, ou pas?
Oui, à ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis. Le problème, c'est qu'ils ont 21 ans, et est-ce qu'ils sont capables déjà de jouer ensemble? Et est-ce qu'ils sont capables de porter à eux deux l'équipe d'Allemagne? Et l'autre problème, évidemment, c'est le positionnement de Gundogan, qui en plus, sélectionneur après sélectionneur, est amené à être le capitaine. Et le problème, c'est que personne ne joue avec lui. Et l'arrivée de Toni Kroos pose un nouveau problème, c'est que tout le monde, et notamment les centraux, passe la balle à Toni Kroos qui joue les quarterbacks, et il y a un grand oublié. C'est celui qui joue théoriquement numéro 10 dans l'équipe d'Allemagne, c'est Gundogan.
Et quelles pourraient être les autres options si Gundogan ne devait pas faire l'affaire
Gundogan, par exemple, contre l'Ukraine, est sorti à la mi-temps, par exemple. Donc il y a deux possibilités. Soit tu recentres, soit Moussiala, soit Wirtz, et tu fais rentrer Leroy Sané ou Furich, la révélation de l'année à Stuttgart. Soit tu commences à jouer avec deux attaquants. Et là, c'est Undav de Stuttgart aussi qui rentre avec Kai Havertz, mais tu peux très bien imaginer Füllkrug avec Kai Havertz. Donc ça, c'est les différentes possibilités qu'on attend. Donc c'est intéressant de voir que l'Allemagne, en fait, il y a des moments elle joue vraiment très bien. Je repense à la victoire contre les Pays-Bas par exemple, mais tu sens qu'ils sont jamais à 100%, qu'ils maîtrisent jamais leur rencontre pendant 90 minutes, et ça c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir découvrir pendant le tournoi.
Bon, quant à l'Écosse, moi pardon, mais je m'y ferai jamais, c'est comme ça, c'est le foot. Mais le Pays de Galles, l'Irlande du Nord, l'Écosse et l'Angleterre, ça fait 4 pays de foot, alors que c'est le même. C'est comme si on avait l'Alsace, la Bretagne, le Nord et
23h46
et l'équipe de Côte d'Azur. C'est n'importe quoi.
On a
vu
trancher du tour.
Voilà. Virez-moi de l'Écosse, le Pays de Galles. Faites-moi l'équipe de Grande-Bretagne.
Et l'Irlande aussi.
L'Irlande, c'est pas pareil.
L'Écosse, il y en a beaucoup qui pourraient te dire que c'est pas pareil non plus. Hein.
C'est comme chez lui. C'est comme si on avait l'équipe du Pas-de-Calais. Tu vois. Voilà.
Je pense que historiquement, entre Londres et l'Écosse, je vois deux trois histoires. Je vois pas entre le Pas-de-Calais et Paris, quoi.
Non, mais c'est les Anglais qui nous ont imposé leur vision, quoi. Comme d'hab. Dans un instant, on revient avec le reste de l'actu Euro et l'actu du jour, notamment la nomination des coachs. Cocorico, vous connaissez cette nouvelle alerte?
Bah oui.
C'est le moment de vous inscrire pour vivre l'expérience RMC Euro 2024 et gagner votre voyage et vos places pour assister à France-Autriche à Düsseldorf. Vous avez 5 minutes donc à partir de maintenant pour envoyer Euro au 732-16 par SMS. Euro au 732-16 par SMS. Bonne chance et à tout de suite dans l'after.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilles Abribois.
Il est 23h49, Daniel Riolo est là, Walid Acharchour est là également. Johan, tu voulais dire un mot des Pays-Bas? Ah non, c'était pas ça, c'était les Pays-Bas, pardon, c'était notre jeu. Pardon.
Oui, j'ai bien compris, un problème, qu'est-ce que
c'est? Je me suis compris. Là, voilà. C'est le jeu, là.
Ça, le problème, c'est l'Irlande et l'Écosse.
Le jeu,
ça me perturbe.
Notre enjeu, là. c'est là vous gagnez des places pour France Pays-Bas parce que les places pour France Autriche sont les a toutes gagnées.
Quand tu dis ça à Walid, d'accord, il est d'accord.
Ouais, mais c'est pour préciser aux gens qui jouent qui envoient l'euro par SMS au 732-16.
Très bien. Et donc
ben voilà, c'est tout.
Ah, c'est tout, ok.
Est-ce que Johan, Polo et Julien, vous avez une info euro importante à nous donner ou est-ce que je peux passer aux nominations d'entraîneur? Très bien, pas d'informations, ouais, ça me va bien.
Je pense que là.
Ah, il y a Walou là.
Johan.
Le petit déj au saut de Berlin.
Je me suis renseigné sur l'hôtel, Julien.
Tu vas adorer, Daniel.
Ah, franchement, j'ai regardé les piscine, photos. Je sais pas qui.
L'hôtel là,
t'as un média qui te régale. Hein.
C'est sérieux.
Non, non, ils m'ont fait un prix.
Ah ouais, ils t'ont fait un prix.
Quelques prestats, ils montent les matchs, ouais, je serai là un petit peu. Hop,
ah ça, oui, d'accord, ok. C'est bon.
Oh là là,
tu fais l'avant-match.
Mais si je leur dis que le grand Daniel Riolo vient, là, c'est encore mieux. Hein. Ils vont te prendre une chambre à mon hôtel, là, ça résonne, mais c'est bien.
Tu fais tout ça en allemand, bien sûr.
Écoute, on va peut-être réfléchir, alors. Parce que là...
Allez, viens, mon
pardon, je me suis moqué de toi avec le campagne aussi, sur le tour, j'ai vu l'hôtel.
Piscine rooftop.
T'es monté sur la piscine, là-haut?
Ouais.
Ah oui, cet après-midi, un petit peu, quand même. Il fait super beau à Berlin.
Piscine renversante.
Oh. On va y aller.
Non, quand même pas, toi aussi, c'est pas les Maldives.
D'accord. Ouais, tu connais Berlin?
Non, je connais les kebabs de Berlin qui sont en France, mais je connais pas.
Je crois que t'es.
Les Berlinois, le Berliner.
Je crois que c'était fini tout ça qu'on a fait.
Oui,
dans
je suis en rééquilibrage alimentaire.
Bah, Berlin, ville extraordinaire.
Ah oui. Faut que j'y aille.
Faut que tu te reprennes en main là.
Ouais, alors
parce que les amis, on a fait 4-5 jours à Marrakech avec Walid.
Ouais, là,
il y a eu 2-3 lâchages.
Voilà, les boutons, c'est terminé, les boutons explosent.
Quand tu vas au resto, tu vois, il y a une carte. Bah lui, il dit que c'est bien de tout commander sur la carte.
Ah oui, il faut se faire plaisir. Mais c'est terminé. C'est terminé, on a été au bout.
Bon, Fonseca, confirmé à Milan. Johan.
Ouais, exactement. Il y avait une grande cérémonie / conférence de presse de Zlatan aujourd'hui, qui est conseiller de Jerry Cardinal et donc de Redbird, le fonds d'investissement qui possède l'AC Milan.
C'est le boss, en fait, hein.
Bah, c'est le conseiller spécial de Cardinal et donc il a un poids. Cardinal avait dit c'est ma voix à Milan, donc ça veut un peu tout dire quand même du poids qu'a Zlatan aujourd'hui à Milan, même s'il travaille évidemment de concert avec Giorgio Furlan, l'administrateur délégué, et Geoffrey Moncada, le directeur technique. C'est une sorte de trio qui travaille sur tous les sujets sportifs. Et il y en a pas mal à Milan parce que il y a évidemment l'arrivée de Paulo Fonseca, il y a la deuxième équipe qui devrait jouer la U23 avec la U23 de la Juve et de l'Atalanta maintenant en troisième division italienne. Il y a le projet du nouveau stade, donc il y a beaucoup de choses, une équipe à renforcer aussi également. Donc il y a beaucoup de choses à gérer, ils sont pas assez de trois, je pense. Et donc Zlatan a officialisé en conférence avec les journalistes l'arrivée de Paulo Fonseca avant que le club mette en ligne son communiqué. Donc on verra maintenant quand Fonseca sera réellement présenté avec la conférence de presse classique, mais c'était attendu. C'est une très belle opportunité pour lui. Évidemment, ce que cherche Milan avec Paulo Fonseca, c'est deux choses. Un, c'est la qualité de football, avoir un football dominant, avoir un football fait de jeu, de pressing, de contre-pressing, de qualité technique, de capacité à se créer beaucoup d'occasions, d'être dominant dans le jeu face aux adversaires. La deuxième chose, c'est valoriser les jeunes, parce que l'effectif de Milan est globalement assez jeune, sans Giroud et sans Kjær, qui sont partis à la fin de la saison en cours, enfin saison dernière, saison actuelle, là. Eh bien, il va être encore plus jeune la saison prochaine, avec un petit peu moins de leader, même si maintenant c'est autour de Maignan et Théo de prendre ce rôle-là, hein, dans le vestiaire, d'être les vrais leaders du club et auprès des plus jeunes joueurs. Donc les deux choses les plus importantes sur la feuille de route de Fonseca sont ces deux choses-là. Et pour lui, ça a été une très belle rencontre. Et maintenant, même s'il arrive avec un peu de scepticisme, mais qui n'est pas forcément lié à lui, mais parce que les supporters de Milan voulaient plutôt Antonio Conte, même si, comme expliqué dans l'after depuis très longtemps, Conte n'a jamais été une solution à l'AC Milan, ni même une pensée à l'AC Milan. Et la gronde qui avait eu lieu pour la fausse arrivée de Lopetegui, elle est liée à ça. C'est une attente de Conte, parce que Conte t'amène des espoirs de gagner tout de suite. Et tu sais qu'avec Fonseca ou Lopetegui, ce sera pas le même processus de court terme, de très court terme, mais qu'on sera plutôt dans le moyen ou long terme.
Alors l'autre coup étonnant du jour, c'est Terzic. Polo, il s'en va. Alors que bon, il a quand même fait une saison là, il avait quand même du crédit là.
Bah, il avait du crédit au niveau des résultats, oui, mais pas au niveau du jeu. Terzic avait demandé, après la finale perdue contre le Real, directement un entretien avec sa direction, et notamment Vatske. Et puis, il a très clairement dit qu'il ne voulait pas faire sa dernière année de contrat et qu'il souhaitait qu'on le libère. Alors, il y a plusieurs raisons aujourd'hui. La première, elle est que beaucoup de journalistes allemands disent qu'il avait déjà perdu son vestiaire. Il ne s'entendait pas avec Marco Reus, il ne s'entendait pas avec Mats Hummels, qu'il avait allumé dans la presse une semaine avant.
Mats Hummels, il est un peu casse-bonbon quand même. Hein. Si on peut se permettre, il a souvent des problèmes avec les coachs. Hein.
Il a, oui, sauf avec sa femme. Non, mais c'est vrai en plus. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient d'apprendre que Mats Hummels ne sera pas prolongé non plus, alors qu'il y a 48 heures, on nous expliquait que Mats Hummels resterait si Terzic partait. L'autre raison, elle est très politique. On est dans un système associatif en Allemagne. Et Vatske va rendre les clés du camion après des décennies à la présidence en 2025. Or, depuis qu'il y a un nouvel organigramme qui se met en place mois après mois au Borussia Dortmund, et il y a notamment Lars Ricken. Ça a été une surprise. Donc, l'ancien buteur Daniel Trappel de la Juve.
Bien sûr, le lobe. Le gamin, il a fait que ça dans sa vie.
Oui, exactement. Qui s'occupait du centre de formation et qui a été nommé, qui a déjà repris le sport à Vatske. Il y a, au détriment de Sébastien Kehl, le directeur sportif. Et surtout, on se retrouvait dans le staff technique de Terzic, une armée mexicaine, en fait, puisque Nuri Sahin et Sven Bender étaient arrivés en tant qu'assistants, etc. Mm-hmm. Donc, on ne sait pas trop, en fait, si c'est pas une révolution de palais, en fait, qui fait que Terzic, est victime, entre guillemets, d'une politique, alors qu'il aurait pu continuer. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas content de Terzic en Allemagne, on le dit, il a failli être viré encore au mois de janvier, que malgré ses résultats, le Borussia Dortmund ne retrouve plus son ADN d'équipe qui se bat sur le terrain, etc.
Ils vont prendre qui alors?
Ah ben, il y a de fortes chances que ce soit Nuri Sahin, ce qui a fait dire sur les réseaux sociaux, spécialiste du Borussia Dortmund et de supporters allemands, c'est sympa, en un peu plus de 10 ans, on est passé de Jürgen Klopp, Thomas Tuchel à Nuri Sahin.
Donc c'est, et Sahin, il a une expérience de coach?
Alors il a pas encore tous ses diplômes d'entraîneur, mais il a entraîné en Turquie notamment. Mais évidemment, c'est un autre, alors déjà c'est un bébé du club. Ouais,
j'aimais bien le joueur à l'époque à Dortmund. Oui, c'était un bon joueur de foot,
très beau joueur.
Ouais. Mais
là, ça va être un petit peu compliqué. Alors, on peut aussi l'expliquer par le fait que le Borussia Dortmund souhaite faire des économies l'année prochaine, malgré la finale de Ligue des Champions. Ils veulent faire baisser la masse salariale de 5%, recommencer sur des nouveaux cycles. En tout cas, c'est une surprise de la façon dont c'est arrivé. Mais en tout cas, dans l'after, on le sait, Terzic n'a jamais fait l'unanimité
auprès des
supporters dans le jeu. Donc ça, voilà, c'était masqué par ses résultats.
Merci les gars.
On peut faire finale de Ligue des Champions et être contesté. Parce qu'en France, quand tu fais demi-finale, t'es un dieu.
Ouais, enfin, je termine avec la dernière histoire du jour de Lionel Messi, qui décidément n'était pas bien à Paris. Histoire du jour. À Paris, dit Messi, on sonnait à ma porte à 9h ou 10h du soir pour me dire que les enfants ne devaient pas jouer au ballon. Les voisins nous emmerdaient pour qu'on fasse pas de bruit. Il dit, moi, j'ai rien contre eux, mais à cause de ça, il y avait un mauvais état d'esprit, ça se répercutait sur le terrain. Il est pas gonflé, lui, quand même.
Il a été. Sans déconner. Il a dit ça la deuxième fois.
Sur le plan personnel, j'étais pas bien.
Il a dit ça.
Déjà, d'où tes gosses, ils jouent à 10 heures au ballon.
Messi, il habite un appart où les voisins entendent quelque chose.
En plus.
Il avait des murs, c'était nos appartes à nous, la taille du mur.
Il a dit ça à cause de ça qu'il était pas bon au PSG.
Oui.
Ouais, j'ai pas lu ça, moi.
Si, j'étais pas allé.
Ah ouais?
Non, mais là, franchement.
Non, c'est pas ça.
Non, mais il vivait quoi? Il vivait dans une résidence. Étudiante?
Écoute,
moi, je pensais qu'il habitait dans un appart tellement grand que jamais les voisins t'entendent.
Ses deux fils, ils faisaient des gaules à gaules.
S'ils hurlaient dans la cour à 10h le soir, forcément, que les voisins n'étaient pas contents. Ouais. Je sais pas.
Bizarre quand même.
Ouais, bizarre.
Merci les gars, on se retrouve très vite pour l'Euro, ça part à partir de demain avec tous les matchs sur RMC évidemment, demain première journée de l'Euro avec un after dès la fin d'Allemagne-Écosse jusqu'à minuit 30, à demain soir.
Ciao.
RMC, l'after foot.
America's favorite place to watch football is Stadium Swim, located at Circa Resort and Casino in Las Vegas. Catch all the biggest games at a viewing experience built for sports fans. Chill in one of their 6 pools on 3 different levels for a perfect view of their massive screen. Plenty of seating options from cozy daybeds to private, temperature-controlled cabanas. Stadium Swim. Book your spot today at CircaLasVegas.com.